Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah bah ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts, et c'est les animaux. À partir de 8h, on changera d'univers avec notre rendez-vous auto, vous le savez. Chaque dimanche sur RMC, entre 8 et 10, il m'accompagne Jean-Luc Moreau, qui répond à toutes vos questions auto. Et pour ce premier rendez-vous de l'année 2016, on vous réserve un votre auto exceptionnel. Un spécial Top Gear avec les animateurs de Top Gear qui seront là. Top Gear France, Philippe Lelouch, Leton et Bruce Joigny. Ils seront là avec nous en studio en direct pendant 2 heures. Et je pense que ça va être un peu, comment dirais-je, la pagaille. Voilà, pour tout vous dire. Et il y aura en plus pas mal de surprises. Voilà, je vous en dis pas plus, ce sera tout à l'heure entre 8 et 10. Et on reviendra bien sûr sur le tournage et les petites anecdotes concernant cette saison 2 de Top Gear France qui commence sur RMC Découverte la semaine prochaine. Laetitia Barlerin, notre rendez-vous animaux avec une invitée exceptionnelle tout à l'heure en fin d'émission. Nous aurons avec nous Réa Hutin.
Et oui, qui fête les 40 ans de l'émission 30 voilà. millions d'amis.
C'est la maman hein, de 30
et oui,
millions d'amis,
c'est,
bien
c'est
sûr.
Elle
avec son mari, bien sûr.
Qui a créé voilà, cette émission avec Jean-Pierre Hutin, si vous vous en souvenez bien.
Mabrouk. Moi, je me souviens de Mabrouk.
Oui,
bien sûr.
On a eu Mabrouk.
C'était la mascotte,
après,
la première mascotte
voilà,
hein, de 30
après,
millions d'amis.
Après, la deuxième, c'était
Je sais plus.
Junior. Et la troisième Mabrouka.
Mabrouka, c'est vrai.
Attention,
en plus.
Parce que alors là, Réa Hutin, si elle voit que
j'espère,
vous ne connaissez pas.
J'espère qu'elle n'est pas encore réveillée, qu'elle nous écoute pas.
Ça va être voilà. Donc Réa sera avec nous. Donc pour nous parler des 40 ans un peu voilà de cette émission mythique intergénérationnelle. Ouais. Et puis nous aurons aussi le témoignage d'une jeune fille qui a réussi à dresser son âne. Vous savez que les ânes sont têtus quand même.
Mais oui, c'est ce qu'on dit, c'est que. Et y a pas quand un âne n'a pas envie de faire ce qu'on lui dit de faire, il ne le fait pas.
Hein. Et ben, elle l'a dressé comme dans un spectacle pour chevaux, par exemple.
Ah, ouais.
Et voilà, elle va nous parler de cette belle complicité entre elle et son âne. Alors,
bah écoutez, il est là.
Sans force, sans violence, bien sûr, le dressage.
Bien sûr. Ah, évidemment.
Bien sûr, évidemment.
Que c'est un animal très intelligent, l'âne.
Et ben justement, elle nous en parlera, justement, de cette voilà. relation. Elle a découvert vraiment une partie qu'elle ne connaissait pas chez l'âne. Et puis, est-ce qu'on peut se projeter dans 10 millions d'années ? Allez.
Alors, attendez, on appuie sur un bouton.
Voilà.
Et on se retrouve donc dans 10 millions d'années, Laetitia ?
Voilà, c'est un peu de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction scientifique.
Ouais. Non ? Vous savez quoi ? Montez dans ma voiture, Laetitia. On va bien s'installer
et on
est parti. On y va. On se fait un petit voyage dans la DeLorean, vous savez, de retour vers le futur. Et nous avons avec nous Marc Boulet à cette occasion.
Alors oui, Marc Boulet qui est paléo-artiste, qui est co-auteur avec Sébastien Steyer, qui est paléontologue du livre « Demain, les animaux du futur » aux éditions Belin. Marc, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Et bonne année d'ailleurs.
Oui. De quelle année parlez-vous?
la 10 millionième en fait.
On va en découvrir. Alors vous êtes vous nous parlez dans ce livre des animaux du futur. Hein, vous êtes paléo-artiste. Alors avant de parler des animaux du futur, j'aimerais que vous parliez de votre métier. Alors vous êtes paléo-artiste, c'est-à-dire que vous reconstituez des espèces disparues il y a des millénaires à partir de fossiles ou de squelettes, si j'ai bien compris. Expliquez-nous un petit peu votre métier.
C'est exact, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je travaille avec des paléontologues qui sillonnent les quatre coins du monde à la recherche d'éléments fossiles, que ce soit des dinosaures ou même parfois bien avant les dinosaures. Et lorsque les paléontologues reviennent de mission avec, souvent ce sont des éléments fragmentaires de fossiles, ils me les remettent, soit des copies, soit des moulages, soit des dessins au trait. Et à partir de ça, je dois reconstituer l'animal dans son ensemble et dans son milieu.
Et vous faites des images numériques, hein, c'est ça, d'animaux ?
Oui, c'est-à-dire que pendant très longtemps, j'étais sculpteur traditionnel et puis je suis passé à la sculpture numérique, ce qui me permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de la définition de l'image, Et pour ce fait, donc, j'opte maintenant pour une qualité qu'on appelle photoréaliste. C'est-à-dire que les animaux que je modélise, j'essaie de faire en sorte qu'ils semblent vrais.
D'accord. C'est pour ça qu'on les retrouve après dans les musées, hein, et qu'on a un peu une idée de ce qu'étaient les dinosaures, par exemple, parce qu'on n'a que des squelettes.
C'est exactement ça, oui.
Alors, vous êtes un incollable sur les dinosaures. Alors, maintenant, parlons des animaux du futur. Donc, vous avez imaginé avec Sébastien Steyer, qui est paléontologue, justement, les animaux qui seraient présents sur notre Terre dans 10 millions d'années. Alors, vous partez du postulat que chaque espèce connaît un cycle et donc elle est appelée à disparaître, pour laisser la place à d'autres. Du coup, en se projetant dans 10 millions d'années, l'espèce humaine n'existe
Caput,
plus.
On n'est plus là?
Oui, c'est-à-dire que ce livre-là est plutôt une invitation à un voyage dans le futur. C'est entre l'imaginaire et le scientifique. Pour ce genre de scénario, on est parti à partir de pas mal de postulats. Et le premier postulat était l'homme n'est plus sur Terre pour une raison qui nous échappe. Et quel serait le visage de la Terre dans 10 millions d'années en l'absence de l'espèce humaine? C'était un des postulats d'un scénario parmi des millions de scénarios, des milliards de scénarios possibles.
Et oui, et là on voit des animaux. Alors franchement, quand on regarde le livre et les animaux...
Il y en a qui sont un peu effrayants quand même,
ouais,
hein,
mais
Marc.
J'ai l'impression que c'est un peu entre Star Wars et Jurassic Park, hein, les animaux que l'on voit dans le livre. On a l'impression que les dinosaures seront de retour dans 10 millions d'années.
Ce qui est intéressant par rapport au fait de travailler sur le passé, comme je l'ai fait depuis très longtemps, c'est que j'ai toujours l'impression que les choses qui fonctionnent se répètent.
Donc vous partez du postulat que les dinosaures vont revenir?
Non, pas les dinosaures. Les dinosaures sont déjà là, puisque lorsque vous avez mangé une dinde à Noël, je suppose que vous étiez consciente que vous avez mangé
non,
un dinosaure.
Non, j'en ai pas mangé. Ni du foie gras, je le précise.
Très bien.
Alors moi, je vous confirme, Marc, j'ai mangé du dinosaure. Hein.
Bon, très bien. Bon, voilà, il y a au moins un humain sur Terre.
Et du dinosaure fourré, en plus. C'est ça qui est horrible. Ça, c'est pas beau.
Les dinosaures sont toujours sur Terre puisque les oiseaux leurs ancêtres étaient des dinosaures. Donc ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que dans notre scénario-là, on s'est rendu compte que certains groupes, comme les oiseaux, se portent très bien aujourd'hui. Ils sont partout sur Terre. Ils occupent quasiment toutes les niches écologiques. Ils sont vraiment partout. Et lorsque nous avons eu cette idée-là, on l'a vraiment développée donc avec Sébastien Steyer, qui est paléontologue, en partant du principe que si les oiseaux se portent bien aujourd'hui, comment se porteraient-ils dans 10 millions d'années.
Oui.
Donc voilà.
Mais alors pourquoi les oiseaux? Parce qu'il y a très peu de mammifères, hein, dans vos oiseaux, dans vos animaux du futur. On n'a plus ces prédateurs mammifères. Ils ont disparu.
Non, c'est vrai que la plupart des prédateurs sont dans ce scénario-là sont des oiseaux. Et des chiroptères aussi. Les chauves-souris se portent très bien aujourd'hui,
oui.
Dans 10 millions d'années.
Mais elles volent.
Voilà, elles volent. Pour certaines, d'autres non. D'autres ont perdu l'usage de leurs ailes et sont devenues terrestres.
Alors, chaque animal imaginé et vous faites une fiche technique, on va dire, un CV de chaque animal imaginé. Et c'est souvent un cousin très éloigné d'un animal qu'on connaît, d'un animal actuel.
Oui.
Par exemple, vous avez l'autruche flamand. Le manchot ichthyosaure, la chauve-souris acrobate. Alors comment vous avez choisi ces cousins, enfin ces animaux? Pourquoi ces animaux?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est
ce que vous avez appelé la biologie spéculative. C'est-à-dire vous êtes parti quand même, vous avez imaginé beaucoup de choses, mais vous êtes parti quand même de données scientifiques.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'imagine un animal, je le soumets à Sébastien, donc Sébastien Steyer, qui lui, en fin de compte, le recadre scientifiquement pour ne pas que je parte un peu hors piste ou faire ce genre de choses, justement tomber dans du Star Wars ou du Jurassic Park. Donc chaque animal imaginé donc est recadré scientifiquement. Donc Sébastien Steyer leur invente des noms latins et une histoire. Et en fonction de ça, après, je peux plus facilement, en fin de compte, imaginer le biotope, le cadre de vie dans lequel ces animaux-là évoluaient.
Mais pourquoi le manchot ou la chauve-souris? Pourquoi eux, ils seraient encore sur Terre dans 10 millions d'années et pas l'homme?
Parce que ce sont des animaux qui se portent vraiment très bien aujourd'hui. L'homme, je pense que on peut en parler, mais c'est pas l'objet du bouquin. Mais l'homme se porte pas tellement bien aujourd'hui. Enfin, l'espèce humaine, en tout cas, plus que l'homme, ne se porte pas très bien aujourd'hui. Alors que certains animaux, comme les oiseaux, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, comme les chiroptères ou les céphalopodes aussi, les pieuvres, les poulpes et les calmars se portent vraiment très bien. On a vraiment choisi délibérément des groupes qui se portent bien aujourd'hui.
Très bien. Enfin, cela dit, tous ces animaux sans vétérinaire, il faut absolument qu'on conserve Laetitia. Moi, je vous propose de cryogéniser Laetitia, Marc. Et de la décongeler dans 10 millions d'années. Ah,
parce que... Elle sera seule.
Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être l'accompagner.
Oui. Hein bah, j'aurais besoin d'aide parce que j'ai vu qu'il y avait un tétard de 40 mètres de long.
Oui, le tétard Gérinus.
Ça, c'est sûr.
C'est un peu, voilà.
Il y aura des mygales dans 10 millions d'années, Marc.
Alors, par rapport aux arthropodes et aux insectes, d'un point de vue général, on n'a pas trop planché dessus, pour la très bonne raison, c'est que j'avais travaillé il y a quelque temps sur des blattes du carbonifère, donc ça fait à peu près 300 millions d'années. Elles n'ont pas tellement évolué au niveau morphologique, donc on ne voyait pas comment ces animaux-là, dans 10 millions d'années, qui est un temps relativement court à l'échelle géologique du temps, auraient pu avoir une architecture telle qu'on aurait pu la modéliser. Voilà, donc on a mis de côté un peu les insectes et les arthropodes en général.
Bon, Marc, on revient dans un instant avec Laetitia. 7h20, c'était RMC, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. Et on imagine à quoi pourrait ressembler la faune dans 10 millions d'années. A tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Laetitia, je suis ton père. Non.
La force est avec moi, donc.
Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas être votre père biologique, Laetitia.
Arrêtez, parce que je suis une fan.
C'est vrai? Vous l'avez vu ou pas?
Bien sûr, en 3D, dans un super sale, avec le super son, le machin, le truc.
Et la magie est toujours intacte, hein, pour fermer la parenthèse là-dessus.
De pur bonheur.
Voilà, ça marche, ça fonctionne toujours, Star Wars.
Mais c'est pour ça, quand j'ai vu Les Animaux du Futur, j'ai reconnu 2-3 personnages de Star Wars.
Ah, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a Jabba. Je sais pas si Jabba the Hutt est là. Marc Goulet, qu'on va retrouver dans un instant. Juste un mot pour vous expliquer ce qui va se passer sur RMC. Tout à l'heure, on va vous parler c'est pas un métier, parce que c'est plus un hobby pour cette personne. Il s'agit d'une personne qui dresse les ânes.
Voilà, une jeune fille qui a 16 ans, qui dresse son âne.
Son âne, en plus. C'est le sien, perso.
Elle lui fait faire, des tours un peu comme Juliette et Charlie, vous savez, de La France a un incroyable talent.
Exactement.
Bah, là, justement, ils ont un incroyable
Qu'on avait eu dans cette émission, d'ailleurs, avec Alex Good, il y a quelques semaines de cela. Et puis, une invitée exceptionnelle, tout à l'heure, en fin de ce rendez-vous dédié aux animaux, ce sera Réa Hutin, la maman de l'émission 30 millions d'amis, 30 millions d'amis qui fête ces jours-ci ses 40 ans. Et on en parlera tout à l'heure avec Réa Hutin qui sera avec nous au téléphone. Mais dans l'immédiat donc, on est dans l'univers. Alors je sais pas, Star Wars, Marc Goulet, quand on regarde Star Wars et qu'on voit les animaux qu'il y a dans Star Wars, est-ce qu'on peut se dire que finalement George Lucas et tous les scénaristes ont eu de bonnes pistes concernant les animaux qui pourraient exister dans 10 millions d'années ou c'est n'importe quoi?
Est-ce que George Lucas vous a contacté pour les prochains épisodes de Star Wars?
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du n'importe quoi. Par contre, il y a vraiment un distinguo à faire entre la biologie spéculative et l'exobiologie. Dans Star Wars, c'est plutôt de l'exobiologie. Donc, c'est la vie sur d'autres planètes. Alors que la biologie spéculative, c'est une étude de style sur le futur de notre planète.
Est-ce que vous imaginez malgré tout une intelligence supérieure
ou même des pouvoirs supérieurs
dans 10 millions d'années? Parce que si vous dites que l'être humain n'existe plus, est-ce qu'il y aura une espèce qui pourra remplacer l'espèce humaine?
C'est une excellente question, parce que déjà le terme même d'intelligence est vraiment à définir avant de pouvoir répondre. Mais bon, je vais quand même essayer de répondre à cette question-là en vous disant que dans le livre, par exemple, il y a certains oiseaux qui sont des bâtisseurs. C'est-à-dire que on a inventé des oiseaux qui ont des mœurs similaires aux termites, par exemple, ou en tout cas aux sociétés matriarcales pyramidales, comme les termites ou les fourmis. Oui. Et ces oiseaux-là construisent des palpinières, ce qui s'appelle ça s'appelle les palpidormis, construisent des palpinières, un peu comme des termitières. Et donc, il y a la reine, il y a les ouvrières, il y a les soldats, il y a les explorateurs, etc., etc. Donc, est-ce que c'est une forme d'intelligence? C'est difficile d'y répondre. En tout cas, eux s'organisent correctement et même font des guerres entre eux.
Ah, il y aura quand même des guerres, oui, ben ça, c'est...
c'est... Comme les fourmis le font aujourd'hui, d'ailleurs.
Comme les fourmis le font aujourd'hui. Et alors, vous parlez beaucoup des océans aussi, dans les océans. Alors, là, j'ai été déçue, il n'y aura plus des grands cétacés comme les baleines ou les requins. Ou les baleines ou les dauphins, pardon. Plus de poissons à squelette, justement, plus de requins, plus de coquillages. Qu'est-ce qu'il y aura dans les océans ?
Alors, c'est toujours pareil. Hein. Le futur n'est pas prédictible. On est bien d'accord. C'est pas du tout une prédiction.
Non, bien sûr, c'est votre interprétation du futur.
Ce sont des scénarios. Mais c'est vrai que si l'homme disparaît de la surface de la Terre, pas mal d'animaux vont disparaître avec lui. Ne serait-ce que, je suis désolé pour votre émission, mais la plupart des animaux de compagnie, les animaux domestiques vont disparaître inévitablement avec lui, puisqu'ils leur sont beaucoup trop inféodés. Donc, il y a beaucoup d'animaux qui vont disparaître à la suite de la disparition de l'espèce humaine, et c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des cétacés ne se portent pas tellement bien. Alors dans ce scénario-là, on a introduit ce genre de disparition, donc les cétacés vont disparaître, donc quels seront les animaux qui vont prendre la place de ces grands animaux que sont les cétacés? Et là c'est vrai qu'on a plutôt misé sur les céphalopodes qui se portent très bien aujourd'hui, comme les poulpes, les calmars, les encornets.
Ah oui, d'accord. Ah oui. Oui, c'est pour ça qu'on a des gros... Alors justement, voilà. Gros...
Donc il n'y aurait plus de mammifères, c'est ça Marc?
La plupart des mammifères sur lesquels on a planché, parce que ce travail quand même s'est étalé sur 15 ans,
oui.
La plupart des animaux sur lesquels on a planché, donc les mammifères, à chaque fois qu'on travaillait dessus, on avait vraiment du mal à les mettre dans la chaîne trophique, dans l'équilibre biologique, dans la chaîne alimentaire. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc on les a pour la plupart enlevés, sauf les chiroptères, les chauves-souris qui sont quand même des mammifères.
Alors ce qu'on voit aussi comme dans les animaux que vous présentez, que vous avez imaginés, c'est qu'ils sont grands. Alors, ça veut dire quand même que les ressources de la Terre seront suffisantes pour ces animaux. C'est étonnant d'avoir ce parti pris d'animaux grands.
Non, ce qui est intéressant justement par rapport à ça, c'est la faculté qu'ont les gens de retenir ce qui les intéresse. Il n'y a pas que des grands justement, il y a aussi des petits. Seulement, c'est que les petits, la plupart des gens n'en parlent pas dans ce livre.
Comme on les voit moins, les petits.
Alors, c'est les poux pieuvres, il n'y a pas des poux pieuvres?
Oui, non, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont vraiment très très grands. Il y a par exemple une chauve-souris qui ne pose jamais les pieds au sol, qui passe toute sa vie dans le ciel. Celle-ci, par exemple, est vraiment très très grande. Le plus grand reptile volant que l'on connaisse aujourd'hui est le Quetzalcoatlus, qui faisait une dizaine de mètres d'envergure. La chauve-souris volante que l'on a imaginée fait quelques mètres de plus. Mais c'est guère plus que ce qu'il y a déjà été sur Terre.
Alors Marc, merci beaucoup.
Merci.
Rappelons que demain, Les Animaux du Futur est dans toutes les bonnes librairies et c'est aux éditions Belin.
Voilà, et si vous voulez avoir... merci à vous. Et si vous voulez avoir un aperçu de ces animaux du futur, allez sur le site lesanimauxdufutur.fr et vous aurez justement des dessins de ces animaux imaginés par vous et Sébastien Steyer qui est paléontologue.
Voilà, alors il y a un petit animal, je sais, sur la couverture qui est tout en bas avec des petites antennes. Il doit bien capter le wifi. Lui en revanche, c'est parfait, il doit être en haut débit, ça c'est clair. Parce que dans 10 millions d'amis, il y aura du wifi encore. Merci beaucoup Marc Boulet.
Merci à vous.
Dimanche.
Allez, la météo, les infos, les prévisions à 10 millions d'années de Christine Peña, elle a beaucoup travaillé pour ça, elle a fait des simulations assez longues. Et puis on revient et on va découvrir une dresseuse d'âne dans quelques instants sur RMC, à tout de suite. La tia-tia, attention. C'est la question flash maintenant. Au moins de 2 minutes, vous vous engagez à répondre à la question de Diane. Mon chat Lucky a mangé pas mal de restes de saumon et autres foie gras pendant les fêtes. Vous avez vu Laetitia? Aujourd'hui, il refuse de manger sa pâtée. Que faire? Tu m'étonnes. Il passe du saumon au foie gras et sa pâtée, il n'en veut plus, en fait. C'est fini.
Oui, mais c'est pas équilibré. C'est pas bien. J'imagine c'est du saumon fumé. Alors, vous imaginez le taux de sel dans le saumon fumé.
Ben oui.
Et ça, c'est très toxique pour les animaux parce que, on a un problème au niveau cardiaque, un problème au niveau digestif.
Les reins aussi, j'imagine, non?
Les reins aussi. Le saumon, trop de vitamine A. Et quand on a trop de vitamine A aussi, on peut avoir des problèmes articulaires à long terme. Le foie gras, n'en parlons pas. Il n'y a que du gras. Donc vous imaginez le foie du chat derrière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors d'abord, ne pas répondre à ses demandes. C'est-à-dire qu'il a compris qu'en miaulant, lui donner quelque chose, surtout en période de Noël. Donc voilà, ne lui donner que sa pâtée. Alors peut-être, mettez dans sa pâtée habituelle un petit peu de thon ou de saumon en boîte. Un petit peu. Ou
histoire
du jus.
Voilà.
du jus de thon de la boîte, juste pour qu'il retrouve un petit peu cette odeur et cette saveur qu'il a connue pendant les fêtes. Ou même de la levure de bière. C'est vraiment quelque chose qui ouvre l'appétit du chat. Et ça, vous pouvez en mettre sur sa pâtée, ça va lui ouvrir l'appétit. Et il va commencer à en manger et pas réclamer autre chose que sa pâtée.
Il n'y a pas de la pâtée à rhum foie gras, ça n'existe pas, Laetitia.
Non, pas encore. J'espère que ça ne va pas arriver non plus. Et puis, c'est une chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lui donner, vous savez, on ouvre une boîte ou un sachet, on met après au réfrigérateur, on la sort, c'est froid, il n'en veut pas. Donc, attendez un petit peu avant de lui donner.
32-16 pour toutes vos questions animaux sur RMC. On vous attend.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
RMC, 7h35, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Laetitia, à suivre dans ce rendez-vous animaux. Tout à l'heure, c'est Réa Hutin qui sera avec nous, la productrice de l'émission mythique 30 millions d'amis qui fête ses 40 ans ces jours-ci.
Exactement, mercredi 6 janvier. L'émission fête ses 40 bougies parce que la première fois qu'elle a été diffusée à la télé, c'était un 6 janvier 1976.
Oh là 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 là.
Ouh loulou loulou.
On était tout petit à l'époque.
Ouh loulou, mais j'étais pas née.
Vous étiez pas née en 76.
Non.
Moi j'étais née, Laetitia. J'étais petit, mais j'étais née. Alors ça sera tout à l'heure. Hein. Réa Hutin sera avec nous. Et puis sachez qu'à partir de 8h sur RMC, on changera d'univers, ce sera votre auto avec Jean-Luc Moreau. Et pour ce premier rendez-vous auto de l'année, là franchement, on s'est fait plaisir puisqu'on vous réserve un spécial Top Gear France. Vous savez que la saison 2 de Top Gear France va repartir là, cette semaine sur RMC Découverte. Vous savez, la chaîne de la sur la TNT en HD. À cette occasion, eh bien toute l'équipe de Top Gear France sera avec nous en studio. Philippe Lelouch, Le Taune et Bruce Joanny seront là pendant 2 heures et ça va être très sympa. Voilà, il y aura quelques petites surprises aussi. Et bien sûr, vous pourrez poser vos questions à Jean-Luc Moreau, bien évidemment. D'ici là, Laetitia, nous allons accueillir Maléa Landy, qui a un drôle de hobby quand même.
Eh oui, c'est son âne.
C'est son âne?
Eh oui, elle lui apprend les tours, elle est dresseuse. Quelque part, elle est dresseuse d'âne, dans le bon sens du terme, bien entendu. Maléa, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, vous avez 16 ans. Alors, vous avez une passion pour le dessin, pour les portraits animaliers, mais aussi une autre pour votre âne qui s'appelle Pepper et avec lequel vous faites du dressage et même des spectacles que l'on peut voir. Comme on peut voir d'ailleurs des spectacles de chevaux. Alors, racontez-nous d'abord l'histoire de Pepper. Comment est-il arrivé dans votre vie?
Alors, en fait, il y a 3 ans, j'avais récupéré un vieux cheval qui partait à la boucherie.
Oui.
Donc, il avait une trentaine d'années. Et en fait, il est mort peu de temps après et j'avais une ânesse avec lui. Et donc en fait, cette ânesse s'est retrouvée toute seule et elle est tombée en dépression. Et du coup, mon père a décidé d'acheter un nouvel âne pour lui tenir compagnie.
Il a quel âge, votre âne?
Là, il a 5 ans.
5 ans. Alors, vous avez... moi, j'ai vu des vidéos parce que vous avez une page sur YouTube avec des vidéos de votre âne. Il y a vraiment une complicité incroyable entre votre âne et vous. À quoi est-elle due?
Je pense que c'est parce que je passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps avec lui, même sans le travailler, juste à l'observer. Je pense que c'est dû à ça.
Beaucoup de temps, ça veut dire le matin et le soir au retour de l'école?
Le matin, je pars à 6h, donc je me lave à 5h pour pouvoir aller le voir.
Ah oui?
Mmh. Puis le soir, en fait, je suis pas interne pour pouvoir aller voir tous les jours. Et du coup, le soir, je rentre et puis j'y suis jusqu'à 9h et après, je vais me coucher.
Mais comment vous avez fait pour lui apprendre tous ces tours, des tours qu'on apprend à un cheval normalement? Avez-vous pris des cours de dressage?
Alors en fait, avant de l'avoir, je ne connaissais pas du tout ce monde-là.
Oui.
Même le monde de l'équitation en général, je ne connaissais pas vraiment. Et en fait, c'est vraiment venu tout seul petit à petit.
Comment vous lui apprenez? Est-ce qu'il marche à la carotte?
On
l'entend là.
C'est lui qu'on entend ou c'est un chat?
Oui, c'est lui.
Ah, c'est lui, d'accord.
C'est Pepper.
Mais il veut passer à l'antenne, c'est normal. Hein. Attendez, Maléa. Donc racontez-nous.
Ces tours, comment vous vous faites avec une carotte?
Alors au tout début, en fait, quand il n'a pas encore compris le mouvement. Enfin, je lui donne une friandise, donc un fruit ou quoi. Mmh. Et puis, dès qu'il a compris en fait, le mouvement, je supprime la friandise pour récompenser à la caresse et à la voix.
Alors, attendez, il fait des révérences, il se cabre aussi comme un cheval, ce qui est étonnant. Mais vous savez que on dit que l'animal, que l'âne est têtu. Est-ce qu'il est vraiment têtu? Est-ce qu'il est, il est quand même plus difficile à dresser qu'un cheval?
Alors, en fait, ça me fait rire quand on dit ça, parce qu'en fait, un âne, c'est pas du tout têtu. C'est juste qu'en fait, s'il voit pas l'intérêt de faire quelque chose, il le fera pas.
Ah, il regarde d'abord s'il a intérêt à le faire, sinon il le fait pas, c'est ça?
Mais en fait, c'est-à-dire que s'il voit en fait ce qui va se passer après. S'il fait quelque chose, il va réfléchir à ce qui va pouvoir se passer après et ce qu'il va pouvoir avoir en échange.
Ah oui.
C'est un calculateur. Alors, je sais que quand vous l'avez adopté, cet âne, il était très peureux, il n'était pas très sociable non plus.
Oui. Parce qu'en fait, quand je l'ai eu, sa mère l'avait rejeté assez tôt. Et puis, il n'avait pas reçu en fait beaucoup de soins de la part des personnes qui s'en occupaient. Enfin, il était juste dans le champ et nourri, mais rien de plus. Du coup, c'est vrai que quand il est arrivé à la maison, il était un peu agressif et sauvage.
Et comment vous avez fait?
La tendresse.
Non,
c'est vrai que sur les vidéos, on le voit, mais il en demande des câlins.
Et en fait, au début, c'était pas du tout ça. Hein. Il rejetait toutes les caresses, tout ça.
Oui.
C'est vraiment venu tout seul.
Bah, parce que franchement, sur les vidéos, on a l'impression que c'est un chien. C'est vrai?
On me le dit des fois, oui.
Mais oui, il a l'attitude d'un chien qui va réclamer des caresses, qui est très en contact avec vous. Il paraît que quand vous partez ou quand vous vous absentez, il est malheureux.
C'est vrai que quand je pars un certain temps, au bout d'un moment, il arrête de manger normalement.
Ah oui?
Et alors? Ouais.
Et du coup, je suis obligée de revenir.
Mais vous savez quand même qu'un âne vit 40 ans. Là, vous êtes au début, vous êtes encore étudiante. Vous pensez à l'avenir?
Moi, après, je sais que je ne me séparerai pas de lui. Hein. Je ferai tout en fonction de lui. Et puis voilà, déjà, pour le lycée, j'ai pris... je sais que je ne peux pas être interne malgré la route, parce que ça me fait quand même une heure de route matin et soir.
Ah oui.
Mais vous le faites pour lui?
Oui.
Alors, vous faites des spectacles, vous proposez des spectacles donc avec Pepper, oui. Notamment dans des salons. Est-ce qu'il n'est pas apeuré, justement, cet âne qui était asocial au début, est-ce qu'il n'est pas apeuré par la foule, les applaudissements, le public?
Alors, en fait, ça dépend vraiment de où on se trouve. Si le public est vraiment près de nous, il fera rien, parce qu'il ne va pas pouvoir gérer son stress. Mais si le public est assez loin, il est comme à Jeannot.
D'accord. Ah ouais, il arrive à gérer quand même.
Ouais.
C'est génial ça.
Et même quand il y a des gens qui viennent à la maison, si les gens s'approchent trop près, il ne se laissera pas forcément toucher. Hein.
Pourtant, on voit qu'il est très, très, très en contact avec vous. Alors, vous savez qu'il y a quelques semaines, nous avons reçu dans cette émission la gagnante 2015 de la France à un incroyable talent qui s'appelle Juliette, qui a fait des numéros avec son chien. Et c'est la première fois qu'un chien, quelque part, gagnait ce concours. Ça vous dirait pas de faire ce concours?
On m'a proposé, mais la route est longue et je sais pas du tout si lui, il arriverait à gérer son stress en fait là-bas.
Bah surtout sur un plateau télé.
Avec voilà, du public.
Et ouais. Parce qu'il va y avoir le public assez près, puis on va être en hauteur et enfin je sais pas du tout en fait.
Est-ce que vous êtes surpris parfois par son intelligence?
Oui, oui. Enfin, quand j'ai eu des ânes la première fois, enfin j'étais jeune, moi je voulais que des chevaux.
Ouais.
Puis mon père a pris des ânes parce que j'avais pas le niveau et tout ça. Et en fait, pour moi, un âne, c'était bête, quoi.
Et alors?
Et en fait, c'est vraiment venu petit à petit. J'ai voulu faire des petites balades à pied avec eux. Puis après, je me suis persuadée que si on pouvait en faire. Et puis c'est vraiment venu petit à petit. Et puis maintenant, je sais qu'un âne, c'est extrêmement intelligent et que plus on leur apprend, plus ils sont capables d'apprendre.
Plus que les chevaux?
Plus que les chevaux, peut-être pas forcément, mais ils réfléchissent vraiment différemment, en fait.
Mais vous savez qu'il n'existe pas de spectacle d'âne comme des spectacles équestres.
Ouais.
Vous serez la première. Vous avez peut-être un avenir dans le spectacle. Je ne sais pas ce que vous voulez devenir plus tard.
J'aimerais pouvoir faire mon métier, du spectacle d'âne, mais après je ne sais pas si ça marchera.
Bon, en tout cas.
Je pense que oui.
En tout cas, Maléa, on peut donc retrouver vos vidéos sur YouTube, hein, c'est ça, hein?
Oui.
D'accord. Laetitia, s'il vous plaît, répétez-moi comment vous dites YouTube. Parce que tout à l'heure, ça m'a un
YouTube.
Peu interpellé. Comment vous dites?
YouTube.
C'est pas mal. C'est pas mal. Merci beaucoup, Maléa.
J'ai la voix un petit peu voilée.
Et une caresse à votre âne.
Voilà, à Pepper.
À Pepper.
Merci, Maléa. Merci. Bonne journée.
Merci à vous.
On dit YouTube.
Mais qu'est-ce que j'ai dit ?
YouTube.
Bah oui.
Bon.
Bah YouTube. Pourquoi on le dirait pas ?
Bah je sais pas. Oui, vous avez raison. Oui, on peut dire YouTube aussi.
Oui.
On revient dans un instant avec non pas la reine de YouTube, mais malgré tout la reine de la télévision depuis 40 ans.
Et oui.
Avec une émission que vous avez forcément regardée au moins une fois. Il s'agit de 30 millions d'amis. 30 millions d'amis qui fêtent, Laetitia ?
C'est 40 ans.
Voilà, et Réa Hutin, la productrice de cette émission, sera avec nous dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, le week-end des experts, les animaux. Encore quelques minutes à passer ensemble et puis ensuite, on changera d'univers. Ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Encore une fois, une très très bonne année 2016 à vous toutes et à vous tous qui venez peut-être de nous rejoindre. Toujours à mes côtés, Laetitia Barlerin. Laetitia, alors depuis ce matin, on se souhaite une bonne année.
Oui.
Mais c'est aussi un anniversaire qui arrive.
Et oui, savez-vous que mercredi... vous le connaissez là, hein, ah ça vous évoque quoi ? Bien
sûr, ça y est, l'émission, le suspense.
30 millions d'amis, fête ses 40 ans.
40 ans.
La première émission a été diffusée le 6 janvier 1976.
Ça ne nous rajeunit pas la tiens.
Ça ne nous rajeunit pas. Et mercredi justement, là, ce mercredi qui arrive, bah, l'émission fera quand même une rétrospective de ses 40 ans. Et nous avons bien sûr avec nous Réa Hutin, productrice de l'émission et présidente de la Fondation 30 millions d'amis que tout le monde connaît. Réa, bonjour.
Bonjour Réa.
Bonjour et bonne année à tous.
Oui, bonne année à vous.
Bon anniversaire aussi Réa.
40 ans, vous les faites pas.
Les 40 ans, dites-moi Réa, c'est pratiquement l'une des émissions de télé les plus qui a
oui.
Au record de longévité,
oui,
non
avec,
oui,
avec
il y a le journal télévisé, oui, avec Thalassa qui était quand même mensuel avant. Nous, on a toujours été hebdomadaire,
ouais.
Et avec le journal télévisé et puis les émissions religieuses.
Et ouais, le jour du Seigneur a
oui.
plus de 40
ouais, mais
ans,
bon,
il me semble.
Là, ils sont hors jeu. L'émission religieuse, c'est hors jeu.
C'est quand même une véritable institution. 30 millions d'amis, c'est l'émission de plusieurs générations. Alors, comme je disais, la première émission a été diffusée le 6 janvier 1976. On la doit à vous, bien sûr, et à Jean-Pierre Hutin, votre défunt mari. Comment avez-vous eu l'idée, à l'époque, d'une émission sur les animaux de compagnie ?
Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'animaux de compagnie à la télévision.
Et
il n'y
oui.
avait que 3 chaînes. D'ailleurs, on faisait 11 millions de téléspectateurs tous les samedis.
Wow.
C'était pour ça que c'était une institution. Les gens se précipitaient chez eux à 18h pour voir l'émission. Donc, effectivement, il y avait des superbes documentaires, même de Walt Disney, avec la faune sauvage filmée au ralenti, la gazelle, le lion, etc. Mm-hmm. Mais il n'y avait rien... pour rendre hommage à ceux qui étaient les plus proches de nous, c'est-à-dire nos chiens et nos chats.
Oui.
Et on s'est dit, mais au fond, nos chats, on va les filmer comme si c'était des tigres, on va faire des ralentis magnifiques, des prises de vue spéciales et tout. Et c'est comme ça qu'on a finalement parlé de ces animaux qui sont le plus proches de nous. Et on pensait pas vraiment que ça allait durer. On s'est dit, bon, quelques années et tout.
Ouais.
Et puis les années passaient, et puis on avait de plus en plus de monde qui nous rejoignait. Et en même temps, on se disait... Ce n'est pas juste une émission, il faut qu'on s'engage pour les protéger parce
et
que
oui.
très vite on s'est rendu compte à quel point il y avait ce problème des abandons, il y avait 400 000 abandons à l'époque, il n'y avait pas cette sensibilité du public envers la protection animale et donc il y avait tout un chantier à créer et vraiment créer cette génération de 30 millions d'amis qui a été élevée finalement dans le respect de l'animal.
Alors l'émission a eu 3 mascottes hein, à 4 pattes, hein, bien sûr des bergers allemands, on a eu Mabrouk, après on a eu Junior, on a eu enfin Mabrouka. Alors comment le Mabrouk, le premier, est devenu la mascotte d'une émission animalière ?
Mais écoutez, on s'est posé la question d'avoir un présentateur, mais vous savez, un présentateur aujourd'hui, ça serait un vieux monsieur ou une vieille dame. Donc on avait dit, on va opter pour des chiens parce qu'eux ne vieillissent pas, ils ont toujours la même bonne bouille. Donc c'est là, et à force de faire des reportages justement sur ces animaux, ces chiens au service de l'homme, on voyait de plus en plus de bergers allemands dans les catastrophes, dans les avalanches. Et on voulait vraiment rendre hommage à ces chiens. Et on a dit, mais on va prendre un berger allemand. C'est comme ça qu'on est allé adopter Mabrouk, qui avait déjà un an, qui était laissé de côté dans un élevage. Plus personne n'en voulait.
Bien, ah oui,
on a pris Mabrouk et on en a fait la star que c'est devenu, puisqu'il est dans l'imaginaire collectif des téléspectateurs. Et ensuite, il y a eu, parce que malheureusement, Mabrouk est mort à 6 ans, il a eu son fils, Mabrouk Junior, comme Douglas Fairbanks Junior. Oui. Et du coup, il y a après ça, Mabrouka, donc, qui était la troisième mascotte.
La dernière.
Et tout le monde s'en souvient, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Alors, vous savez que vous avez fait un sondage à l'occasion de cet anniversaire, et dans ce sondage, plus de 6 Français sur 10 se déclarent attachés à cette émission. Comment expliquez-vous que cette fidélité, cet accueil dès la première émission pour 30 millions d'amis?
Mais vous savez, on a toujours eu ce respect du public et on a eu ce lien avec, puisque tous, qu'on soit capitaine d'industrie, star ou simple anonyme, on regarde tous nos animaux avec ces mêmes yeux et nos animaux nous regardent avec cet amour-là. Donc on est très proche de nos téléspectateurs et c'est vrai qu'on n'a jamais ridiculisé. On a quand même passé tous les chefs d'État, on a passé des stars,
oui, oh là là.
Donc c'était toujours dans le respect de l'animal mais aussi de la personne, parce qu'évidemment qu'on a vu Mitterrand ou Giscard d'Estaing à quatre pattes quasiment à aboyer sur ses chiens. Évidemment que ce sont des
chiens qu'on ne mettait pas. Mais comment ils ont fait pour accepter ça? C'est dingue, ouais. Parce que bien souvent ces animaux, les stars, les politiques, n'aiment pas qu'on entre dans leur intimité.
Mais
or là, on entre dans leur intimité.
Ils aiment leurs animaux, ils veulent les montrer. Oui. Je me souviendrai toujours que Raymond Devos nous en a voulu parce qu'on l'a trop montré, lui, et pas assez son berger allemand. Et il nous engueulait en disant, mais zut, et pourquoi? Et évidemment, ils sont comme nous. Moi aussi, je veux montrer mon chien, je veux montrer mon chat, regarde comme il est beau. Donc voilà, il y a cette affection vraiment incontournable chez nous tous. Et c'est vrai que nous, on aime nos téléspectateurs. Mmh. Année après année, on fait cette émission comme du bon pain qui sort du four, avec vraiment... voyez,
mais c'est quoi votre secret? Vous savez que tous les producteurs aimeraient avoir une émission qui dure 40 ans.
Ah oui,
mais c'est
ça,
notre
c'est
passion. On est tous en équipe. Maintenant, j'ai une équipe de jeunes. C'est la même chose. On regarde, on pleure devant nos sujets, on rit. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté assez unique à 30 millions d'amis qui fait probablement, qui explique cette longévité.
Alors, vous savez aussi... Selon ce sondage, près de 9 Français sur 10 considèrent que 30 millions d'amis est une émission de télé qui ne doit pas disparaître. Alors, là, c'est la grande interrogation. On sait que vous étiez diffusé le dimanche. On vous a mis maintenant toujours le mercredi, toujours sur France 3.
Oui.
L'impression que c'est un horaire, à des horaires difficiles, hein, quand même. Est-ce que l'émission va continuer en 2016? Tout le monde se demande.
Vous savez, on est tous sur des chaises éjectables et on ne le sait jamais. Donc effectivement, il y a une volonté de la nouvelle direction de France 3 de faire je ne sais pas quoi. D'ailleurs, on ne sait pas trop. Mais effectivement, ça, il y a des gens. En 40 ans, j'en ai croisé des directeurs de chaînes.
J'imagine.
Oui.
Ouais.
Ben, il y a ceux qui aiment les animaux et ceux qui ne les aiment pas. Vous voyez, donc il y a des sensibilités comme ça. Donc peut-être que effectivement on est soumis à ce côté très subjectif de ceux qui nous gouvernent.
Mais pour l'instant rien de concret, Réa.
Non, mais vous savez, c'est comme d'habitude, à cette époque de l'année, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Donc effectivement, on est là jusqu'en juin et ensuite, mais vous savez, moi je veux quand même, moi aussi je veux m'adresser aux jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes, c'est l'internet, c'est le multi-écran et vraiment je voudrais à l'occasion de cette 40e année vraiment, finalement, me libérer de mes chaînes, des chaînes, et quand même avoir cette présence avec notre communauté qui est fantastique, qui est une communauté qui agit, il y a une interactivité. Vous savez, lorsque on a réussi à ce que le code civil soit changé, 900 000 signatures dans une pétition, cette adhésion de tous, et c'est ça qui est formidable, et vraiment, c'est ce que j'aimerais développer. Donc, c'est, au fond, la télévision de demain, c'est
évidemment,
ça.
Évidemment.
Oui.
Merci beaucoup, Réa.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bon anniversaire
bonne année. Bonne année, voilà. Alors, ne manquez pas le numéro de mercredi, c'est un numéro spécial anniversaire de 30 millions d'amis. Puis sinon, si vous n'avez pas le temps de le regarder, il existe les replays, bien sûr.
Merci beaucoup, Réa.
C'est le générique 1976 qui passe.
Oui, alors, mais alors
ne zappez pas, ne croyez pas que vous avez changé d'époque et vous êtes remonté dans la machine à remonter le temps.
J'ai vu ce générique, je peux vous dire qu'il est très années 70, avec des chasseurs qui partent à la chasse et la mémé avec son petit canari en dessin animé.
Ben vous c'est imaginez mignon. Ce qu'on a parcouru comme chemin. On avait même un chasseur à l'époque.
Mais oui, pour dire.
À bientôt Réa, merci encore.
Merci Réa, merci.
7h55, c'était RMC, Laetitia Barlerin. Bon, on sera tous évidemment mercredi sur France 2.
Oui, et puis si vous travaillez, en replay, voilà. Comme on dit.
Et bien évidemment.
Et oui.
Mais auparavant, Malatiatia, il est temps de retrouver notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. Et alors là, on vous a sélectionné une vidéo.
C'est-à-dire que...
c'est pas qu'elle est LOL, c'est qu'elle est hyper LOL. Hein,
c'est on est hyper d'accord. LOL. C'est un raton laveur qui a un peu abusé des agapes, comme on dit.
Voilà, et on remercie Jérôme Giliberto, notre réalisateur, qui, quand il a le temps, hein, scrute YouTube pour nous trouver des petites vidéos rigolotes.
Et donc, c'est un raton laveur qui fait la roulade.
Oui. Alors déjà, un raton laveur dans un appartement, c'est rare, parce que là, il est dans une maison.
Je pense que c'est aux États-Unis.
Voilà, c'est ça. Et donc, ce raton laveur fait des petites pirouettes. Comme
voilà,
ça.
Des roulades.
Des petites roulades, hein.
Voilà.
C'est sympa.
Il en fait deux, trois, c'est filmé, c'est sympa. Voilà. Mais il a l'air de s'amuser, hein.
Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Il s'amuse bien. Et donc cette vidéo.
On sait pas ce qu'il a bu avant. c'est pas dit, mais bon.
Vidéo retrouvée donc sur la page Facebook de Vos Animaux sur AMC. Puis au passage, vous cliquez sur J'aime. Bon, Laetitia, cette première émission de l'année 2016 est terminée.
Oui.
On se retrouve bien sûr dimanche prochain.
Dimanche prochain.
On sera là.
Voilà, on mettra à l'honneur des associations de protection animale qu'on ne connaît pas ou peu.
Voilà, c'est pour débuter l'année aussi.
Voilà, pour mettre en avant quand même des initiatives de personnes qui veulent vraiment offrir du temps pour les animaux et qui créent ces petites associations ou qui travaillent bénévolement dans ces associations, et nous les mettrons justement en avant.
Très bien. Laetitia, rendez-vous dimanche prochain, et dans un instant après la météo et les infos, il sera là. Lui, c'est Jean-Luc Moreau. Salut Jean-Luc. Et
Buenos dias et bonne année.
Et bonne année, et bonne mon année. Grand. Happy New
bonne
Year.
Bonne année.
J'ai une idée pour une association de défense pour bonne santé.
Il faudrait que bonne santé. Allez entissier quand même, parce que là franchement.
Et pourtant j'ai monté l'association de défense de la Côte de Bœuf.
Ah oui.
Vous avez bien fait. Là.
Qui est elle-même parrainée par l'association de défense contre le foie gras. Hein, c'est ça.
Contre le foie gras.
Non, pour. Pour.
Non, c'est
pas possible.
C'est pas possible.
Bon,
c'est pas
bien.
Possible.
Jean-Luc Moreau, on se retrouve dans un instant.
Oui.
Voilà.
Il vous reste une demi-heure, même pas, un quart d'heure pour réviser, parce que je vous ai préparé des quiz.
Ah oui, ça c'est le problème.
Comment ça Il
vous a piqué votre idée là.
Il m'a piqué mon idée en 2016.
Qu'est-ce qui va se passer là entre 8h et 10h? Donc c'est notre rendez-vous auto avec vos questions auto 32-16 bien sûr, etc. Et une émission un peu particulière, Jean-Luc, quand même.
Un peu particulière parce que.
Oula, ça y est,
on a trouvé qu'on n'était pas suffisamment nombreux.
Ouais.
Donc plutôt que d'être deux,
ouais.
On va être cinq. À présenter ces deux heures d'émission.
Dans ce studio.
Ouais. Alors imaginez déjà à deux.
Ouais,
c'est un peu le bordel. Ouais. Hein, voilà. Alors à cinq.
Ça va être un peu compliqué.
À cinq, puisqu'on a avec nous les trois animateurs de Top Gear.
Non, c'est pas vrai.
Saison 2 démarre.
Non, mais
cette
arrêtez,
semaine,
c'est pas possible.
Elle démarre mercredi.
Ils sont venus un dimanche matin à 8h.
Ouais, moi ils ont eu un peu de mal.
Ah oui. Et oui, dans un instant, Le Tone, Bruce Joigny et Philippe Lelouch seront là. Ce sont les trois animateurs de Top Gear France et on va passer deux heures avec eux.
Alors si vous avez des questions à leur poser, vous n'hésitez pas, bien entendu. Moi j'en ai quelques-unes, j'ai préparé une petite liste aussi.
Voilà.
Je sais que j'aurai pas de réponse, mais je vais poser les questions quand même.
Ça sera dans un instant après
la
météo, les infos.
Pour une fois. C'est bien.
A tout de suite sur RMC.